Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 16 février 2026. On se retrouve avec un Bitcoin donc autour de 68 500 dollars en léger recul sur la journalière et sur l'hebdomadaire avec désormais sur un mois moins 28%. Ethereum n'est pas malheureusement mieux loti puisque sous les 2000 dollars à nouveau, 1970 à moins 5,50 que ça soit en hebdo ou en journalier, moins 41 sur le mois. D'ailleurs, ça fait partie quand on regarde les altcoins des plus grosses contre-performances. Si on observe notamment du côté de AAV, on est qu'à moins 28, moins 29. Donc c'est à noter, une progression de 12% donc pour AAV à la 33e place, 126 dollars, on en parlera en fin d'émission. On a des moins 10, moins 11 pour notamment les mêmes coins comme Dogecoin et qui recule substantiellement en journalier mais pas en hebdomadaire. Plus 20 pour Zcash, toujours en hebdo mais moins 10 en journalier. Et on en a quelques autres comme ça, comme Taobi Tensor qui lui aussi s'est pas mal repris. Ces derniers jours, 21% et 6% en journalier et le top 60 donc qui se clôture autour de 800 millions avec du Nexo, Algorand, de Flare Network et Official Trump qui sont tous autour de 800-850 millions de capitalisation. Du côté des infos, pas énormément de choses à court terme, mais on avait Sfaibull la dernière fois qui nous mettait en avant qu'il y a désormais plus de 30% des ETH qui sont stakés sur le réseau Ethereum. Pour rentrer, il y a 70 jours de file d'attente, pour sortir il y a 0 minute de file d'attente. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on se pose la question de comment va se développer Ethereum au cycle suivant et sur un cycle qui, de 2022 à 2025, nous a fait pas mal souffrir pour le coup. Loris Dalio qui met en avant Ferrari avec son ticker Race qui vient d'enregistrer son plus faible volume de livraison trimestrielle depuis près de 4 ans. Et malgré ce, on a eu un rebond assez important de l'action Ferrari, donc à surveiller puisqu'elle avait pas mal dégraissé. Le secteur de l'énergie US, une 7e semaine consécutive de hausse qui totalise à plus de 500% de performance dividende réinvestie depuis le creux du Covid il y a 6 ans. Donc très très belle progression pour l'énergie. Et un breakout qui est bel et bien acté, on en avait discuté sur les dernières fins d'émission, autour de 47,50 avec une progression là aussi qui pourrait être intéressante au cours de 2026. Avec beaucoup, selon CryptoQuant, Bitcoin qui n'aurait pas encore atteint sa capitulation finale, les principaux indicateurs on-chain restent en zone bear, mais pas encore en bear extrême. Selon les modèles, donc, on pourrait aller autour de 55 000 dollars. Et je vais vous donner un petit peu d'informations additionnelles en fin d'émission. Je pense qu'on pourrait même aller un petit peu en dessous des 55 000. À l'inverse du S&P 500 et du Nasdaq 100, le Dow Jones, dont on parle très très peu souvent, utilise le prix de l'action plutôt que la capitalisation des entreprises. Résultat, Goldman Sachs, Caterpillar, Home Depot, ils pèsent bien plus lourd que les géants de la tech. Donc peut-être aujourd'hui un indice qui ressemblerait à quelque chose un peu équipondéré et qui peut avoir son intérêt donc dans un portefeuille que l'on veut plus robuste, plus résilient que volatile en allant sur la tech ou le S&P. JC Parets qui nous partageait le graphique Ethereum face à Bitcoin avec potentiellement un double creux ici sous l'énorme support des 0,03. Donc à voir pour la suite, mais il est vrai que ça pourrait être un front run du support suivant qui se trouvait autour de 0,02 sur le ratio ETH-BTC. Stockworlds qui met en avant donc deux petites infos pour clôturer autour de ça. BlackRock qui vient d'avoir donc le milestone des 14 000 milliards sous gestion. Ils ont donc désormais 55% en equity pour 7 700 milliards. Fixed income 23% pour 3 200 milliards. Multi-asset, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, 9% pour 1 300 milliards. Alternative, je suppose que ça inclut tout ce qui est crypto, potentiellement 3% pour 420 milliards. Et enfin, le cash management et others, 10% pour 1 400 milliards avec des résultats qui sont complètement fous. Donc là aussi, les entreprises comme BlackRock, comme le ICE, comme le Nasdaq, tous les vendeurs de pioches et de pelles que représente aujourd'hui la bourse, ça peut avoir un intérêt en infime proportion, mais dans un portefeuille comme ça, puisque au long terme, elles ont tendance, vu que c'est elles qui font tourner le casino, à pas mal se comporter. Et on clôturera donc avec cette infographie toujours de Stockworlds qui nous montrait le croisement des courbes entre l'equity, donc les actions, et le gold ETF. Donc ça fait depuis mars 2025 que ces courbes finalement se suivaient un petit peu à distance. Et pour la première fois, eh bien, on a l'or en effet qui est en train de croiser à la hausse les détentions via son ETF des equity. Donc c'est quelque chose à surveiller, puisque si vraiment au cours de 2026 on continue d'avoir avoir un bull run du gold. Malheureusement pour nous, ça voudra toujours dire qu'on n'est pas dans cet environnement propice à la prise de risque. Et vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies représentent le risque maximal. Et c'est là où finalement, quand on observe Bitcoin qui nous a fait un top autour de 4300 milliards pour le crypto total incluant Bitcoin et les altcoins, et du côté de Bitcoin autour de 125-126, on se demande effectivement jusqu'où il pourrait chuter. Et c'est en ça que c'est intéressant, puisque la plupart du temps, et d'ailleurs je ne vous ai pas oublié, aujourd'hui vous auriez dû avoir l'émission sur le DCA, comment investir en 2026, c'est une émission sur laquelle je veux prendre un minimum le temps pour pas faire ça à la va-vite et le traiter comme ça en surface quelque part. Donc j'essaie de vous faire quelque chose bien carré. Ça sortira quand ça sortira, certainement au cours de cette semaine, peut-être mercredi, peut-être un peu plus tard au cours du week-end, mais voilà, ça va pas tarder à sortir. Et dans tous les cas, c'est une émission que j'ai pas faite depuis 3 ans, puisque je regardais 3-4 ans, ça datait du cycle dernier. Vous pouvez le retrouver sur comment sortir du bull run sur la chaîne. Et également, il y avait celle de l'automne 2021, comment prendre ses profits ou quelque chose dans ce style, où je vous donnais tout simplement, déjà alors même que j'étais encore complètement englué à 100% en crypto à cette époque, en 2021, la perspective que j'avais, qui était finalement assez logique, de me dire il va falloir sortir de ce marché, acheter de l'immobilier, acheter peut-être de l'or, acheter des cartes Pokémon, des toiles de maître, des parkings, tout ce que vous voudrez. Et à l'époque, c'était assez marrant, puisqu'il y avait des personnes qui à la fois comprenaient et d'autres qui disaient non, on est en super cycle, jamais rien ne reculera dans la crypto, tout ira bien, tu racontes que des bêtises. Donc bon, les réseaux sociaux habituels, j'ai envie de dire. Mais j'ai trouvé ça assez marrant en me replongeant même dans l'automne 2021, alors qu'on était en train de faire le second top du cycle du méga bull run de 2020-2021, d'avoir retrouvé cette lucidité quelque part, de me dire bon ben ok, on a bénéficié d'une période qui était exceptionnelle, on a eu beaucoup de chance, beaucoup de volatilité, mais ça ne durera pas toujours, et donc de solidifier tout simplement le portefeuille. Et 4 ans plus tard, finalement, ça n'a pas changé, voire même désormais 5, 2026, le temps passe si vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, de plus en plus j'ai cette approche patrimoniale quelque part pour l'émission, plutôt que de juste faire entre guillemets du gambling et derrière de se retrouver une main devant, une main derrière, comme ça a été le cas de beaucoup d'entre nous malheureusement à certaines périodes ou à certaines cascades de liquidation. Pour ceux qui avaient fait du levier, notamment du côté de AAV, je sais que vous êtes nombreux et je me suis moi-même fait prendre par la patrouille au cours de 2024-2025, donc au moment où il y a eu beaucoup trop de volatilité, notamment sur Ethereum, on s'y attendait pas forcément. Toujours est-il, pour recentrer le débat, puisque les erreurs, on en a discuté un nombre incalculable de fois, et j'espère que ces retours d'erreurs vous permettront à votre tour de moins en faire de votre côté. Aujourd'hui, on a un crypto total à 2320 milliards, et donc on a cette mèche qui nous bloque entre 2000 en bas et autour de 2650 en haut. Et on voit qu'on s'est arrêté pas n'importe où, hein, quand on travaille autour de 2003, c'est le gros du volume profile. Le souci, quand on regarde toujours ce volume profile qui est représenté ici par les barres bleues et oranges à gauche du graphique, c'est que le prochain gros volume profile, il est plutôt autour de 1600-1700 milliards. Ça nous ramène à la petite période de consolidation de novembre 2023 à l'extraction février 2024. Et si on regarde du côté du Bitcoin, c'est là où ça ne va pas vous plaire pour le coup. Eh bien, si on revient à cette période de consolidation, on est plutôt quelque part entre 25 et 30 000 $. Alors, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui qu'on a forcément besoin, notamment au vu de comment s'est passé ce cycle, de revoir un Bitcoin à 25-30 000 $. Je suis juste en train de dire que le gros du volume profile, effectivement, il est plutôt entre 33 précisément, hein, le haut de cette zone à 32 850. On a une belle zone également de travail qui avait été les points bas de mai ici, à l'époque où on avait pris le premier shoot de 2021 autour de 29-30 000. Et ensuite, on a le POC qui est autour de 26 900. Donc ça, c'est quelque chose que théoriquement, on ne perdrait pas et qui correspondrait plus ou moins aux 15 500 qu'on a eu au cycle précédent, puisque je vous rappelle, si je remets toutes les moyennes mobiles, que la moyenne mobile 200 à ce jour est autour de 59 000 $. Donc imaginez si on perdait par rapport à la moyenne mobile 200, pour revenir au POC, moins 54%, ça paraît destructeur vu comme ça, et ça paraît fou de le dire, mais un simple retour sur cette zone, c'est c'est moins 78,60. Donc, on serait dans les clous de ce qu'on a fait précédemment. On aurait même un point de plus que ce qu'on a fait en 2022. Donc, en soi, aujourd'hui, il y a assez peu de chances qu'on y retourne entre 25 et 30 000. Et par contre, tout ce qui se passe un petit peu avant, et notamment ici, cette belle zone de volume profile entre 42 000 et autour de 46 000, ça, c'est tout à fait de l'ordre du possible. Et donc, par rapport à aujourd'hui, ça nous ferait perdre encore, si on revenait sur cette zone, environ 30 à 35%. Et par rapport au top des 125, 126 000, on serait à moins 64, moins 65%, ce qui serait tout à fait là dans les clous de l'acceptable, vu qu'au cycle précédent, on a fait moins 77. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de me rajouter comme ça le volume profile et de voir que on a quand même des creux assez importants selon les zones de prix qui n'ont pas été travaillées longtemps, sur lesquelles il n'y a pas eu beaucoup de volume échangé. Et pour du long terme, c'est quelque chose qui peut faire foi selon, voilà, comme d'habitude, de ce qui nous sort un peu du chapeau au cours d'un bear market, puisque là aussi, depuis cette fameuse nuit du 10-11 octobre, on ne sait pas exactement quels cadavres peuvent encore nous sortir du placard, à ceci près que là, ça fait désormais pas mal de temps qu'on est super baissier du côté de Bitcoin, on a enchaîné les bougies baissières, que ça soit en hebdo où on a clôturé pour la quatrième semaine de baisse consécutive, exactement comme on l'avait fait ici de octobre 2025 à novembre 2025 déjà, mais même en mensuel. En mensuel, on est sur 5 mois de baisse consécutive et on a à peu près 10 jours désormais, 12 jours pour renverser la polarité et la vapeur de cette zone. Ça peut tout à fait être fait, mais quand on regarde comme ça, et c'est là où j'aime bien me rajouter des petits trucs comme le système Ichimoku que je ne regarde quasiment jamais, on voit qu'on a la lagging span en blanche qui est sur le support exactement là où se travaille le cours actuellement autour de 68 000, mais on voit aussi que si derrière ça traverse, eh bien, le prochain vrai support, il est autour de 50 000. Ça serait une zone où la lagging span rencontrerait pas mal de résistance de son côté, mais aussi où on viendrait toucher le nuage. Et quand on regarde en hebdomadaire, toujours en système Ichimoku, c'est catastrophique. Pour le coup, on n'a aucun support pour l'instant. On est passé à travers le nuage, on est passé à travers tout ce qui pouvait représenter de près ou de loin pour la lagging span un semblant de support. Donc oui, aujourd'hui, on peut se dire qu'on a un joli volume profile qui nous sauve les miches pour l'instant autour justement de cette zone de 66 à 70 000. Mais quand on regarde factuellement, eh bien, on est tout à fait dans les clous de ce que nous ont délivré malheureusement les bear markets précédents. Et je suppose quand bien même on arriverait d'ici la fin du mois de février à raccrocher les 76 000 plus ou moins, puisque j'ai quand même du mal à penser qu'on pourrait raccrocher au-dessus des 80, donc on va dire 76, 78. Tant qu'on n'aura pas renversé cette polarité-là, et la polarité, on la voit très bien avec le nuage d'Ichimoku, c'est-à-dire de repasser durablement au-dessus de 88, 90, et par la suite, peut-être plus tard ici, dans le twist du nuage autour de 100 000 au cours de juin 2026, tant qu'on ne reprend pas les 80 à 100 000, on est, pour le court moyen terme, dans une phase qui est profondément baissière pour le marché crypto. Et dans un premier temps, il faudrait repasser au-dessus de 78. Plus tard, ce qui nous intéressera, c'est de construire entre 100 et autour de 107, 108, et ensuite là on pourra commencer à estimer qu'on repart vers l'ATH et vers de nouveaux ATH plus tard, et ça serait plutôt au cours de 2027-2028 si toujours c'est ce cycle de 4 ans qui joue, et pour l'instant jusqu'à preuve du contraire on est bel et bien dans cette cyclicité, malheureusement ou heureusement pour nous selon comment on se place. Du côté américain, il ne s'est pas passé grand chose, le S&P qui devrait réouvrir dans le vert cet après-midi, on a le DAX également allemand qui est toujours très très haut, d'ailleurs une progression qui a été sans commune mesure depuis le Covid de ce qu'on a vu sur le CAC ou d'autres indices. Ça colle à la performance du S&P, c'est pour dire l'Allemagne qui se porte très bien, 208%, tandis que le S&P on était à 230, quelque chose dans ces eaux-là, et le CAC 40 on est à 120-130. Il est à noter également qu'on a le dollar qui continue d'essayer de se stabiliser sur cette fourchette autour de 96 points, le DXY, donc est-ce que nous sommes en train de faire le bottom du dollar? Ça c'est quelque chose qui pourrait être assez destructeur en termes de valeur, en tout cas pour les marchés cotés en dollars pour 2026. Du côté des métaux précieux, moins 0,90 pour le gold autour des 5000 dollars l'once. On a également pour les minières le iShares Physical Gold ETC qui lui est à plus 1,68, mais c'était la clôture de la semaine dernière. Là aussi, quand on voit le POC du volume profile qui aujourd'hui se trouve à 4008 pour un indice qui est à 7200 pour le ticker SGLN, donc iShares Physical Gold ETC. Voilà, le jour où on va avoir des corrections du côté des métaux, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont avoir mal à la tête pour le coup. Ethereum, comme on le disait tout à l'heure, alors lui, c'est différent face à Bitcoin, puisque on est déjà sur un point de POC pour le travail, et d'ailleurs, c'est pile poil ce qu'il est en train de travailler à 1900, il est à 1905. On a les deux petits trains d'ici long terme qui passent. Donc franchement, si on revenait sous, on va dire, les 1550-1600 et qu'on vient à perdre les 1400, là, pour le coup, ça va être l'apocalypse et on reverra Ethereum autour de 800-900 balles. Enfin, peut-être les 1000 seront front-run. Mais voilà, c'est en gros le downside qu'on a en fonction du propre downside du côté de Bitcoin. Si Bitcoin tient les 50-60 000, eh bien, Ether fera exactement la même chose. C'est-à-dire, on viendra mettre un coup de canif dans le contrat ici et revenir backtester les 1400, se construire ici, revenir travailler le POC qu'on a autour de 1009 et repartir en direction du pivot des 2150. Donc ça, c'est vraiment le meilleur des cas, entre guillemets, et technique et de ce qui pourrait nous arriver courant 2026. Et je croise les doigts pour que ça soit ça, puisque si ça part dans un bear market où on perd vraiment des zones clés et qu'on commence à revenir travailler à nouveau les points de 2022, de 2018, etc. pour Ethereum, ça va devenir très très compliqué. Du côté des mineurs et des treasury companies, on avait Coinbase qui nous a fait une très très belle remontada fin de semaine dernière, plus 17% en séance. Donc on a eu une belle bougie de rattrapage de 140 à 165 dollars. Pareil, est-ce que ce support intermédiaire va suffire des 145 dollars ou est-ce que plus tard on le voit à 120 voire autour de 80 avec un POC long terme à 55 dollars? Là aussi, je vous donne juste la mesure, si on touchait ce volume profile extrême long terme, ça nous ferait moins 88% du côté de Coinbase, tandis que sur son introduction, elle avait perdu immensément plus puisqu'on était autour de moins 92, moins 93. Et ne vous y trompez pas parce que ça peut paraître un peu piégeux quand on raisonne comme ça, de se dire ouais, ça fait que 5 points de différence. Et bien le moins 87 à moins 93, en réalité, ça fait moins 42, moins 43% supplémentaire. Donc ça aussi, les pourcentages, c'est pas toujours très clair, mais voilà, il vaut mieux se l'afficher soi-même pour éviter de se convaincre de faux biais, de se dire ouais, 83 à 90, c'est bon, c'est pas grand chose, au final ça représente un monde. Du côté des actions américaines, on avait Robinhood qui a repris un peu du poil de la bête. Pareil, pour l'instant il est un peu au milieu de nulle part, autour de 76 dollars. On n'a même pas véritablement touché le support long terme qui serait plutôt ici autour de 60. Donc on va se mettre une petite ligne pour du très très encore plus long terme autour de 30. Et ensuite, voilà, on a un POC volume profile puisque ça a été une action qui a été beaucoup traitée dans ce range à l'époque qu'on avait bien identifié entre 7 dollars et autour de 13 dollars. Que le POC, c'est-à-dire la zone de volume profile qui a été la plus travaillée à ce jour, est autour de 11 dollars pour une action qui est venue à 152-153. Donc beaucoup de volatilité encore à venir, certainement plus tard pour Robinhood, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à rentrer très timidement et que je continuerai bien entendu de surveiller au cours de 2026. Du côté des actions FR, ça continue de consolider pour FDJ. Je ne suis pas encore re-rentré sur ce dossier puisque assez déçu pour le coup du comportement depuis ce top ici en juin 2021 autour de 51-52 euros. On est aujourd'hui à 22-23, le point bas récent à 22, donc on va voir quelle sera l'extraction. Ceci étant dit, depuis ici mars 2025, pendant cette descente donc des 30 euros à aujourd'hui, on a beaucoup de volumes qui sont en train d'être exécutés, donc potentiellement on a FDJ qui change de main petit à petit, et une fois que les oscillateurs vont se renverser, on pourrait avoir dans un premier temps le retour de ces 22-23 euros vers les 30 euros, c'est la médiane de grand range, et ensuite la borne supérieure autour de 40 euros, donc une gestion du risque qui peut se faire très simplement pour ceux qui surveillent en mettant le stop quelque part ici sous les 22 euros, et derrière on a quand même un ratio risque-récompense là où se trouve l'action aujourd'hui qui reste relativement intéressant, en tout cas d'un point de vue technique, et comme d'habitude ça n'est pas un conseil en investissement. Du côté des altcoins, alors comme je vous disais, on a AAV qui, j'ai vu au cours du week-end, est dans un énorme canal descendant, donc c'est en regardant un peu mes charts, je me suis dit ah oui, et on a le POC donc de AAV qui est autour de 60 $109. Donc on voit que ça a été pas mal travaillé, notamment ici le printemps-été 2024. La mèche qui n'est pas allée plus bas que ces $80 quand il y a eu la méga liquidation du côté de Binance. Donc aujourd'hui, on a un AAV qui a mêché à 93, qui est de retour à 126 et qui défend finalement l'ancien range des $113-$115. C'est pas mal. Il redeviendra neutre haussier à partir du moment où on viendra faire un nouveau point haut en sortie de ce range. Donc potentiellement, déjà, il faudrait reprendre les 150, mais surtout les $180. Et par la suite, ça ouvrirait la porte plus tard, bien entendu, aux $360-$400. C'est la borne haute de ce range aujourd'hui. Donc la question à laquelle il faut répondre pour nous, pour les alt, pour le moment, pour investir tout court en 2026, c'est si je rentre aujourd'hui sur AAV à 100-125 $, j'ai un potentiel de upside si pile poil je rentre là à $125 qui est de l'ordre de entre 150 et allez, 200%, donc on va dire entre un x2 et demi et un x3. Est-ce que si je chope du Bitcoin à 50 000 et que je vise 150 000 voire 200 000, je réalise pas la même performance finalement? Donc on va le prendre exactement 50 000. Un simple retour à l'ATH, on est à 150%. Un nouvel ATH à 150 000, on est quasiment à 200%. Et les 200 000, on est autour de 300%, c'est-à-dire 1x4. Tout en étant sur un actif qui est plus robuste que AAV, mais ça vaut pour Solana, ça vaut encore plus pour Hype, qui est beaucoup trop jeune pour y allouer d'énormes capitaux, mis à part ceux qui n'ont rien à perdre et qui vont prendre ça justement par l'autre bout du spectre, c'est-à-dire un peu en mode casino. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, Hype, ça tient très bien. Pour l'instant, en bear market, il se comporte bien, le projet continue de développer, les fondamentaux sont bons, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand je regarde le comportement de AAV, j'ai envie de mettre beaucoup plus de AAV que ce que j'ai de Bitcoin en portefeuille pour une performance qui sensiblement, en tout cas d'un point de vue technique, quand on observe les ranges, serait similaire? Voilà, c'est la question que je me pose systématiquement aujourd'hui quand je veux investir dans quelque chose. Et c'est vrai que de faire ce simple petit travail de se dire, certes, on peut avoir plus de volatilité, plus de performance du côté de AAV si on arrive à choper le point bas ultime une fois que Bitcoin potentiellement viendra choper son propre point bas, mais tout en ayant beaucoup plus de volatilité, moins de résilience, un actif qui, on ne sait pas trop ce que ça peut donner du jour au lendemain pour une décision de la team, une décision de la DAO, ça vaut exactement pareil pour Hype, ça vaut exactement pareil pour Tao Bitensor, ça vaut pareil pour Chainlink, ça vaut pareil pour Solana. Ce que je dis là pour AAV, c'est juste pour illustrer le propos. Tout ça pour un résultat qui, la plupart du temps, quand on prend la fourchette médiane, la moyenne hors des mèches extrêmes, c'est-à-dire vous vendrez jamais le top, vous achèterez jamais parfaitement le point bas, vous allez être très certainement pour 2026 à 2030, désolé de vous le dire, dans le même type de performance du côté de ces altcoins qui sont déjà pas mal capitalisés que ce qu'on aura du côté de Bitcoin. Donc ça laisse à réfléchir. Et je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on se quittera donc avec l'Asie qui, pour le GPY 30 ans, continue de truster relativement haut, 3,5 points. Et on a le topic, c'est le Nikkei qui sont en recul de 0,82-0,90 pour la réouverture de cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas exactement quand est-ce que sortira cette fameuse émission spéciale DCA Investir en 2026. J'essaie d'avoir le plus de profondeur possible, donc certainement voilà, une émission un peu à rallonge d'une bonne trentaine de minutes, mais qui devrait pouvoir vous servir. Ceci étant dit, en base absolue, bien qu'aujourd'hui, ça sera infiniment plus tourné vers la globalité dans mon portefeuille et l'asseoir au long terme, donc le côté un peu plus patrimonial, un peu plus, avec de la granularité que ce que je l'avais fait il y a 4-5 ans pour 2021-2022, vous retrouvez déjà sur la chaîne ces fameuses vidéos « Comment investir en DCA »,« Comment sortir du bull run » et quelques autres qui peuvent d'ores et déjà vous aider sur la piste de comment gérer les choses. Et là, vous allez avoir la version ultra moderne pour prendre en considération déjà ce qu'on a traversé en 2025-2026. Et deuxièmement, je me dis que quand on voit les statistiques du côté de notre chaîne YouTube avec une moyenne d'âge qui est entre 35 et 45 ans la plupart du temps, on a très peu de jeunes de 20-25 ans sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on est obligé aussi de raisonner pour des personnes qui ont déjà un petit peu de capital et qui ne veulent pas faire tout et n'importe quoi. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, la personne qui a 20 ans, qui n'a rien à perdre, qui a ses premiers quelques milliers d'euros, veut essayer et veuille essayer le tout pour le tout du côté des meme coins, du côté des altcoins, du côté de tout ce qui aura vraiment le gros kick absolu de volatilité, quitte à tout perdre malheureusement en face. Par contre, la personne qui a 35-45 ans, deux gosses, trois gosses bien installés dans sa vie, le boulot, ça file droit, etc., le métro, boulot, dodo, et qui n'a pas envie de se casser la tête à 24, à être sur des graphiques, à ne pas dormir la nuit à cause de la volatilité du portefeuille crypto qui est trop ci, qui est trop ça, ou je ne sais quoi, là, vous êtes totalement sur la bonne chaîne et on va essayer d'aller beaucoup plus loin autour de ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve mercredi certainement pour le débrief intermédiaire de la semaine des marchés et au cours de ce week-end maximum, donc pour cette vidéo Investir DCA 2026. Très bon début de semaine et à plus tard. Ciao, ciao.